Salut tout le monde, moi c'est Éléonore.
Et moi c'est Valentine.
Et on fait partie du podcast Levé de rideau du FTUL, donc du Festival de théâtre de l'Université Laval.
Vous allez me dire, qu'est-ce que le podcast Levé de rideau? C'est un podcast qui cherche à présenter des acteurs des arts vivants au Québec, que cela soit par leur thématique, leur métier ou leurs aspirations. Nous voulons faire découvrir des aspects plus méconnus de ces formes d'art au Québec.
Cette semaine, c'est Gabriel Beauchesne qu'on vous présente.
Finissant en mise en scène au Conservatoire de Québec, il vient nous parler du métier de metteur en scène, de la réalité des étudiants dans le milieu théâtral et du théâtre actuel au Québec.
À l'interview. On va commencer avec la présentation de ton parcours. Donc, tu peux nous parler un peu de ce qui t'a amené à aller en mise en scène, toutes les écoles dans lesquelles que t'as faites et tout.
C'est bon. Toutes les écoles que j'ai fait, il y a quand même une petite liste d'écoles que j'ai fait. Après, dans mon parcours en théâtre, j'ai fait mon premier deck en théâtre au Cinéma de Sherbrooke. Ensuite, j'ai fait un deuxième deck en théâtre au Conservatoire La Salle, qui n'existe plus. Oui, c'est ça. J'ai quand même un très long parcours étudiant derrière moi. J'ai quitté le Conservatoire La Salle, j'ai eu mon diplôme, je suis rentré à l'université à l'UQAM en études théâtrales. Puis, pendant que j'étais en études théâtrales, j'avais envie de jouer. Donc, puis une prof qui m'a incité à aller en jeu, fait que j'ai quitté l'université, j'ai fait mes auditions en jeu, je suis rentré à Saint-Hyacinthe. J'ai été là pendant un an de temps. Malheureusement, après un an, il y a des coupures, j'ai été victime de ça. On repart faire une ronde d'audition, on se ramasse à Lionel Groulx. Où est-ce que je connais un peu le même sort? Et où est-ce que j'en viens à devoir choisir d'un avenir qui est de plus en plus nébuleux, incertain? Puis, ce qui est particulier, c'est que durant mes années, surtout en interprétation à Saint-Hyacinthe, aussi à Lionel, il y a deux parties de ce qui m'anime en théâtre qui est ressorti. L'écriture, énormément, mais également le désir de comprendre le fonctionnement du jeu. Donc, avec la pression qu'une école à coupure peut représenter, je me suis lancé immensément dans la théorie théâtrale pour le jeu. Fait que de lire tous les théoriciens, toutes les façons qu'on pouvait apprendre à un acteur à jouer, ce qui m'a amené à adorer la direction d'acteur et de finalement me dire « ça serait pas bête d'aller là où t'as finalement vraiment étudié ». Sur quoi t'as vraiment étudié dans les dernières années, soit la mise en scène. C'est une amie qui m'a convaincu. Moi, j'étais comme, pour être metteur en scène, faut que tu saches jouer. Faut que tu saches avoir une base. Puis, je l'avais pas acquise, selon moi. Une amie m'a poussé à le faire. Je dis, bon, d'accord. J'étais sur un all-in. OK, on le fait. Et ça aboutit que je suis rentré en mise en scène au Conservatoire à Québec et que j'en suis très heureux.
Qu'est-ce qui t'a amené, d'ailleurs, à aller vers ce chemin de, genre, aller vers le théâtre, à commencer avec le jeu et tout?
À la base, moi, je voulais être auteur de théâtre.
OK.
Mais comme ils prennent seulement deux personnes par année à l'École nationale, je me suis dit que, ça serait peut-être plus facile à aller en jeu. Wow. Utiliser la voix du jeu pour pouvoir faire ma place après ça comme auteur.
OK, ouais.
Fait que tu vois, ça n'a pas abouti d'aller en jeu, ça n'a pas fonctionné. Ça a été mise en scène, finalement, qui m'ont permis de plus d'écrire. Mais ouais, fait qu'à la base, je voulais être plus auteur. J'étais allé justement en études théâtrales parce qu'il y avait des cours d'écriture, beaucoup. Puis, j'étais quand même très curieux aussi sur la nature du théâtre. Mais c'est en jouant avec une enseignante de niveau professionnel que ça m'a donné encore plus le goût de me dire vas-y par le jeu, t'aimes ça en plus, ça t'anime, c'est toujours nouveau. C'est ça que j'aime beaucoup du théâtre, c'est le renouveau constant de tout ce qu'on fait. C'est vraiment cette voie-là. Écriture, on va essayer de faire par le jeu, on continue à écrire, puis on finit par pression sur soi-même à devenir quelqu'un qui aime la direction d'acteur. Que j'adore, là, aujourd'hui. Je fais ça avec aucune pression. C'est devenu un terrain de jeu hyper fertile, puis c'est ça qui est le fun. C'est que tu travailles pas seulement avec toi, mais avec des extensions des gens qui deviennent un peu les extensions de toi-même et qui sont d'accord à chercher plus loin que ce que individuellement on pourrait faire. Il y a vraiment le travail d'équipe commence là à le pacte qu'on fait de tu vas être l'instrument. Je serai juste la personne qui va te montrer la voie pour savoir la note qu'il faut faire. Mais il y a c'est cette communication-là qui vient rendre le tout très le fun à faire. Là. Il y a comme une... des découvertes constantes. Là. C'est ça qui est vraiment trippant. C'est les découvertes constantes qu'on peut avoir avec un interprète puis se dire « Ah, on est arrivé ensemble à cette étape-là. » C'est souvent le petit bonbon à la fin de la course.
OK. Puis mettons, comment tu définirais concrètement la mise en scène?
C'est très difficile à définir. Tu sais, globalement, il y a... Surtout le rôle que metteur en scène peut avoir. Tu sais, si on dit la mise en scène telle que ce de... c'est donc la disposition des actions scéniques versus l'espace, versus le décor, l'ambiance, tout ça. Donc, le metteur en scène, de fait, est gestionnaire de ça. Mais... dépendamment de l'équipe avec qui tu travailles, ça varie énormément. C'est comme personnellement, au niveau des décors costumes, moi c'est un pan que je ne connais quasiment rien. Dis-moi, je suis pas un concepteur, je ne serai jamais un concepteur de décors ni de costumes. Donc, c'est important pour moi de travailler avec quelqu'un qui va pouvoir me proposer constamment des choses et prendre des décisions pour moi à ce niveau-là également. Au niveau de la musique. Je suis beaucoup influencé par la culture populaire des années 2000, donc souvent ça a une influence pas mal sur qu'est-ce que j'ai besoin comme ambiance. Mais on peut tout fonctionner de façon différente. T'sais, moi, j'aime bien idéaliser le fait d'avoir un assistant qui dirige autant que moi sur un show. La seule différence, c'est que je gère cette vision d'ensemble-là et ce rapport-là de groupe. Mais... c'est pour ça que je trouve que c'est une question qui est plus difficile, vu que c'est propre, je pense, aussi à chaque praticien, de savoir ouais. C'est quoi la mise en scène pour toi. Après ça, c'est dans les questions pour moi qui sont très larges aussi, c'est le même rapport que à quel moment on est témoin d'un acte théâtral. C'est des questions où est-ce qu'on peut... il y a de façon très simple, de façon très complexe pour dire il y a ce rapport-là qui doit être absolument être établi, ou plus simple, c'est Peter Brook qui dit dès que quelqu'un qui marche dans un espace puis quelqu'un le regarde, on a du théâtre, quelque chose comme ça. Là,
OK, oui, je vois l'idée.
Je dirais que si je devais résumer ça hyper simple pour moi, la mise en scène, c'est simplement... c'est difficile parce qu'entre le metteur en scène et la mise en scène, c'est deux choses différentes aussi. Il y a un rôle, il y a une fonction, et il y a... Mais la mise en scène, c'est le spectacle, c'est la mise en application du spectacle.
Ouais.
Pour moi, c'est un peu résumer okay. Ça aussi simple que ça.
Ouais, parce que mettons, là je vais parler de metteur en scène plus ouais. Que mise en scène, mais quand on dit « Oh tiens, un comédien », on sait exactement de quoi on parle.
Ouais.
« Oh tiens, un metteur en scène »,
un peu plus vaste.
Le public en général a aucune idée.
Je sais pas si c'est culturel ici, au Québec. Je me demande... parce que c'est vrai, il y a beaucoup de monde ici qui comprennent pas, puis on parle très peu de ouais. C'est qui le metteur en scène ou la metteuse en scène ou metteur en scène. Alors qu'on parle d'un réalisateur des fois avec... « Oh my God, c'est Steven Spielberg! » ouais. C'est que le principe du... On a très peu accès, au Québec en tout cas, sur le metteur en scène. On est vite passé dans le vedettariat des comédiens. Tu sais, même aujourd'hui, en Europe, on voit qu'il y a du... On met beaucoup les scénographes de l'avant. Ouais. Alors qu'au Québec, on est encore très loin de là. Il n'y a aucun scénographe superstar du public général.
Ouais, j'avoue, j'ai aucun
nom. Alors qu'on a d'incroyables scénographes au Québec là, pour voir des shows... C'est flabbergastant de voir ces conceptions-là. Puis on n'a pas ce culte-là au scénographe. On a énormément un culte à l'acteur et à l'actrice au Québec.
Ouais, puis je sais qu'il y a aussi... Désolé. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de projets de films, mais surtout des petits films qui vont aussi dans les... le Festival de Cannes en France, mm-hmm. qui sont québécois et qui vont au Festival de Cannes parce qu'ils ont reçu des prix. Mais on n'en parle pas tant au Québec, comparé.
Non, je pourrais pas dire pourquoi du tout. pour moi, c'est encore une étape que je vais prendre en sortant de l'école, de cette rencontre-là avec le public. C'est quoi ce rapport-là que j'ai? Qu'est-ce que je sais qu'il comprend? Parce que étudiant en théâtre, puis ça fait longtemps là, je suis étudiant en théâtre. Puis quand on est étudiant en théâtre, souvent c'est des mondes un peu coupés du monde, dans des micro-organismes qui vivent entre eux seulement. Fait que des fois on perd le contact. Puis ça fait longtemps que, autant que j'ai eu des emplois, j'ai parlé avec du monde de plusieurs milieux. Mais au niveau du théâtre, en tant que praticien qui rencontre un public qui, lui, n'est pas nécessairement relié au monde du théâtre, je sais pas ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il comprend aussi dans ce qu'on fait. Mais il y a un phénomène au Québec qui est très particulier, qui est la centralisation des arts, qui fait en sorte que, mettons, je prends d'abord Montréal. En sortant de Montréal, plus on s'éloigne, moins on connaît les arts de la scène, les artistes des arts de la scène. Les acteurs de théâtre et les actrices de théâtre, on les connaît plus de nom nécessairement. Les shows qui vont faire de la tournée, surtout en été, ils vont prendre des grosses vedettes québécoises.
Oui.
Fait que eux autres, ils vont les connaître rapidement. C'est du monde qu'ils connaissent, puis c'est pour ça que ça fonctionne, puis c'est une bonne business pour ça. Puis ça permet au théâtre de vivre à l'extérieur de Montréal. À Québec, c'est un peu le même principe aussi, mais en moins gros, parce qu'on n'est pas issu de la télévision. Fait qu'on a notre monde, le monde du théâtre. À Québec, les gens connaissent
la scène.
Mais il y a ça aussi dans ce cas-là, c'est qu'on considère qu'il y a une bonne partie de la population québécoise que dans leur ville, ils n'ont pas accès à du théâtre proche d'eux.
Ouais.
Fait que, tu sais, je demande à la communauté à Québec ou à Montréal théâtrale de me nommer des fois les metteurs en scène des shows, il n'y aura aucun problème. Mm-hmm. Mais à l'extérieur de ces grandes régions-là, le rapport à la culture est fait par la télévision, les films. Donc, souvent, on va s'intéresser à l'acteur à ce moment-là.
Ouais.
T'sais. Fait peut-être pour ça aussi que le principe de metteur en scène, c'est que ça vient pas de fait avec la culture qu'on a. Tu sais, à Sherbrooke, d'où est-ce que je viens à la base, on avait des bonnes cellules artistiques. Les gens qui consommaient l'art de ces petites cellules-là connaissaient très bien les équipes derrière. Mais avec le temps, c'est des communautés qui se sont un peu épuisées aussi, parce que par manque d'intérêt, autant qu'il n'y a pas eu assez de développement. On pourra parler tantôt du rapport Black des années, je pense que c'est des années 50, où est-ce qu'on parlait qu'il y a trop d'écoles et qu'ils sont tous centralisés à Montréal.
Le quoi?
Mais je pense que... Pardon?
Le rapport
Black. C'était, il me semble que c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec qui avait commandé ça. Il avait mis en charge 5 personnes qui ont émis le rapport Black, dans lequel il mentionnait que qui était en nom avait le nom de Black, c'est la personne qui dirigeait l'étude, je sais pas son prénom là. Puis il y a un super article dans la revue Jeux qui date, je pense, de 2011, fait par Gilles Marcellet, si je me trompe pas, qui en parle, puis que ce n'est beaucoup le rapport des écoles et pourquoi peut-être qu'à Montréal il y en a trop, alors qu'ailleurs il n'y en a pas du tout. Puis il y avait comme idée aussi de s'il devait y avoir des écoles de théâtre ailleurs, on visait Sherbrooke et le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour pouvoir permettre que ces lieux-là, comme ça s'est passé à Québec, de créer des écosystèmes indépendants d'art là-bas.
Mais c'est ça, mettons les conservatoires de musique, il y en a dans beaucoup de villes, alors que ce théâtre, il y en a deux. Là.
Puis le but, c'était de pouvoir faire en sorte que s'il y a un conservatoire, mettons une école de théâtre à Sherbrooke, ben, qu'il y a vraiment des professionnels qui ne viennent pas nécessairement de Sherbrooke, mais qui viennent y enseigner, qui deviennent la ressource pour pouvoir construire ce milieu artistique-là. Et qu'après ça, ben, ça va influencer les gens à rentrer dans leurs habitudes pour que les comédiens et comédiennes qui diplôment de ces lieux-là restent aussi dans le coin.
Ouais.
Mais ça n'a pas eu lieu. Il y a eu le rapport, c'est la recommandation du rapport de limiter les écoles de théâtre un peu. Puis dans d'autres rencontres qu'il y a eu par la suite, il y avait des directions d'écoles de théâtre impliquées. Tous semblaient être plus ou moins d'accord, mais dans le sens qui était comme « oui, mais touche pas à mon école ». Parce qu'aucune d'entre elles voulait fermer, évidemment.
Ben oui, ça marche comme ça, là.
Fait que, mais c'est particulier, tu sais, à Montréal, que tu as déjà 3 écoles à Montréal, une qui est à côté Lionel Groulx, puis une qui est à Saint-Hyacinthe, puis Saint-Hyacinthe n'est pas reliée à aucune autre ville en théâtre que Montréal. Fait que, tandis que c'est le fun à Québec, justement, pour ça. T'as une ville, mais on est coincé de nos niveaux, qu'on n'y a pas assez de développement en ce moment, mais pas assez au niveau de la télévision, des films. Mais encore là, on l'a tristement vécu avec Escouade 99, parce qu'on a pris quasiment majorité des comédiens et des comédiennes de Montréal, et on avait nos acteurs de Québec qui sont hyper talentueux, qui ont fait des seconds rôles, pratiquement, seulement ça, tu sais.
Mais je pense que ça s'améliore un peu plus, non? par rapport à ça, la ville de Québec s'ouvre un peu plus par rapport au cinéma, je trouve.
Oui, 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 il y a du développement, puis tu sais, ça n'empêche pas que nos acteurs ou actrices vont à Montréal jouer aussi.
Oui.
Mais Emmanuel Bédard, qui joue en ce moment dans Stat, qui dans Escouade 99 joue un avocat, puis qu'on le voit, je pense, pendant un petit épisode, alors qu'il y a un rôle récurrent dans Stat, parce qu'il se déplace à Montréal, alors que le tournage avait lieu ici, tu sais. Et comme encourager les comédiennes de Québec, c'est important aussi, les comédiennes. Puis, tu sais, ça a été. C'est des débats aussi pour que les gens restent aussi après ça. Parce que vu qu'on ne développe pas assez, bien, les gens sont tentés d'aller à Montréal. Il y a toujours dans chaque cohorte qui diplôme quelques personnes qui retournent à Montréal. Tu peux pas voir rien, c'est qu'il y a des opportunités qui se donnent
ça.
Là.
Mais c'est-tu mieux de percer à Québec ou à Montréal?
Ça dépend ce que tu veux faire, non?
Ouais.
Ben, c'est le principe de. Est-ce que tu. Ben, tu sais, on veut percer. Ben, est-ce que, percer, à partir de là, tu perces ou est-ce que tu peux percer? Aussi, tu prends les portes qui s'ouvrent. À savoir, est-ce qu'on y a des meilleures portes d'entrée à Québec ou à Montréal? Je pense qu'il y a des meilleures portes d'entrée dans le milieu à Québec. Est-ce qu'on survit à Québec en théâtre? Ça, moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Tandis que... parce qu'on offre... Tu sais, on a la chance d'avoir un théâtre comme Premier Acte.
Ouais.
Qui offre immensément de visibilité à la relève, puis de la place pour aller monter des shows. À Montréal, ce qu'on a, on a des différents événements, mais souvent, ils
sont pas reconnus par le public.
Ils sont pas autant reconnus, ou disons que c'est des festivals, Tandis que, tu sais, Premier Acte, c'est vraiment un théâtre dans lequel il y a une programmation, que ça fait partie de la culture à Québec. Il y a du monde qui préfère aller à Premier Acte qu'aller à d'autres shows qui sont faits au Trident ou à l'Abordé. Tu sais, pour le rapport, des fois, qui c'est un théâtre de la relève, donc c'est un théâtre qui se veut audacieux aussi, peut-être avec des nouvelles propositions qu'on fera pas à un public d'un théâtre qui est abonné et qui s'attend à avoir un certain standard de spectacle.
Ouais.
Et c'est un luxe immense qu'on a, ce qu'il n'y a pas qu'à Montréal. Mais en retour à Montréal, c'est qu'une fois que tu es rentré, souvent, il y a quelque chose qui peut se créer une boucle aussi. Et tu as accès à plus de contrats facilement. Dans le sens facilement, c'est pas le terme, c'est juste qu'il y a. Donc, tu veux faire une pub, il y a un contrat de pub demain matin, je peux y aller. On me l'offre, je vais aller faire l'audition. À Québec, c'est de l'organisation, il faut que tu te déplaces quand même aussi pour ça. Tu peux te rester proche d'un milieu aussi. Parce qu'on ne se cachera pas que des fois, que connaître des gens, pis, pour pas qu'on t'oublie aussi, pour que tu restes dans la mémoire des gens, j'ai pensé à cet acteur-là ou à cette actrice-là, ben, il faut que tu fasses un peu de PR, il faut que tu ailles dans les événements des fois. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais il y en a que c'est ça qui fait la différence. Fait que quand tu es à Québec, puis tu vas faire ça à Montréal, c'est pas possible.
Ouais, à part si tu aimes faire du transport
tout le temps. Mais tu sais, on a la chance par contre d'avoir des très belles carrières à Québec. Mais ce qu'on peut remarquer des fois, c'est aussi le fait qu'à l'époque, il y avait des cours très petites qui diplômaient. Mais il y a du monde en cours de route qui arrête aussi. Puis c'est parce que à plusieurs étapes, des fois, la réalité du métier est très difficile financièrement ou que même. Sur la charge mentale, c'est très difficile aussi à être interprète. En tant que metteur en scène, c'est très difficile de se prononcer. Surtout du programme dans lequel je suis, où est-ce qu'il n'y a pas tant de diplômés? Tu sais, le programme est encore jeune aussi. On est quelques-uns, quelques-unes. Mais à savoir, y a-t-il un intérêt à aller là ou là? Personnellement, moi, je me dis, dépose tes projets. Puis va où là, on t'appelle, tu sais. Là, on t'offre une chance d'y aller. Moi, idéalement, j'aimerais ça être dans les deux villes. Parce que ce qui est avantageux quand t'es metteur en scène, c'est qu'une fois que ta job est faite, le show peut y aller. Oui, aussi. Puis le show peut être, tu sais, je peux avoir une gang à Québec, préparer le show à Québec, être là dans les premières représentations à Montréal pour entrer en salle, puis les laisser aller après. Mon implication est beaucoup moins grande de me déplacer. Elle peut être pareil, tu sais, ça dépend de l'engagement que tu peux avoir avec un projet, mais c'est ça. Pour moi, il y a un intérêt à aller dans les deux places, là où tu vas avoir de l'ouverture. Mais tu sais, évidemment, je sors de l'école, je m'essaye à Premier Acte, j'ai cette chance-là ici d'avoir ça. Ensuite, il y a d'autres appels à projets un peu partout, on dépose quand même, on essaie des affaires, puis on verra où est-ce que ça ira. C'est ça.
Donc, c'est comme ça que tu vois ton avenir, toi, présentement?
Ben ça, c'est la partie vague de où est-ce que je laisse des gens décider pour moi.
OK.
Parce que pour moi, c'est... Tu sors du Conserve de Québec, tu peux attendre. Moi, je déteste cette idée-là d'attendre. Surtout, je suis pas comédien. On va pas m'appeler pour un contrat du jour au lendemain. Déjà, en partant, c'est pas une probabilité.
Mais seule personne te connaît en dehors du conservatoire.
Personne me connaît vraiment. Faut que, tu sais, on peut évaluer un acteur sur soit des mots de jeu. On peut se dire, je suis capable de l'amener là. Un metteur en scène, c'est confier une grande charge à quelqu'un qui a pas fait ses preuves encore. C'est aussi ça. Fait que c'est... Puis est-ce que c'est nécessaire de faire ses preuves? Je pense que c'est juste une étape de se dire, OK, il peut faire ça. C'est pas de dire, wow, incroyable, mais de voir un... Il peut mener un projet à terme. Ça peut être intéressant ce qu'il fait. Je sens l'originalité dans sa démarche artistique. Là, à partir de là, je pense qu'on peut dire... Quelqu'un a été vu, puis attendu, puis qu'après ça, il y a de la place. Mais en sortant, j'ai pas de démo, tu sais, à proprement parler. J'ai pas de...
T'as pas petite vidéo de toi en train de faire des maquettes non, c'est... pour ta mise en scène?
C'est pas moi qui fais des maquettes. Ça va être nos scénographes, nos chers scénographes. Tu sais, moi, généralement, c'est sur du papier, mon travail. Là. Ouais. Sur du papier, puis c'est en salle de répétition. En dehors de ça, il existe pas vraiment, à moins qu'il y ait une captation du spectacle. Ce qui va être le cas, moi, pour mon spectacle final. Ouais. Mais à part ça, t'es... Bonjour, je suis bon, je suis metteur en scène. Ouais. Acceptez mon projet. J'ai aucune expérience selon mes trucs. Mais tu sais, j'ai fait des trucs à l'école, mais je suis personne pour le moment. Ouais. Fait que c'est un gros risque que prendrait un théâtre. Autant que j'espère qu'ils vont le prendre, ce risque-là. T'sais. Fait qu'en retour, de mon côté, à pas attendre un appel, je dois faire les choses de mon côté.
Mm-hmm.
Fait que je retourne à ce que je sais faire. J'écris. Je vais écrire des projets. Je vais essayer des affaires aussi. Voir, puis être actif avec un appel, pouvoir proposer, pouvoir me lancer dans ça. Apprendre à devenir bon aussi à faire des appels à projets. C'est pas quelque chose d'inné non plus, là, faire ça. Puis c'est de comprendre... c'est d'avoir le luxe aussi d'être entouré de gens qui cherchent à faire des choses aussi à Québec. C'est ça qui est le fun. Ben, je pense que c'est le cas aussi à Montréal, mais vu qu'on a un accès à des certaines choses, des salles, des compagnies qui veulent engager, c'est qu'on peut se dire « on va essayer ». On va essayer, puis on a des lieux pour le faire.
Mm-hmm.
Fait que ma sortie, je la vois en « oui, on va déposer, on va attendre de voir si quelque chose se passe ». En retour, moi, j'ai mes propres projets que je veux mener. Je suis chanceux, je suis entouré de personnes incroyables qui veulent se lancer dans le vide avec moi de temps à autre, dépendamment aussi des autres s'ils reçoivent des appels ou non. Cette game-là aussi, c'est que il y a de la place pour la relève à Québec. Je ne dis pas que c'est tous les 12 étudiants ou étudiantes qui vont passer à aller aborder l'an prochain, mais souvent, on voit quelques diplômés avoir des premiers rôles au théâtre, pas nécessairement des premiers rôles, mais leurs premiers rôles à eux autres au théâtre en sortant de l'école, ce qui est incroyable. Fait que, mettons, ces gens-là sont occupés, chacun attend ses appels, puis tant mieux si ça fonctionne, puis on se comprend, mais je suis vraiment chanceux d'avoir des gens avec qui on est prêt à se lancer dans ce vide-là.
Est-ce que, j'ai un petit peu dévié du sujet, mais est-ce que toi, t'as un style artistique dans ta mise en scène? Est-ce que t'as une façon déjà de diriger, et est-ce que t'as une façon de, genre, d'écrire tes mises en scène qui...
C'est difficile à dire aussi. Tu sais, je vais être sorti, mais ça se peut que dans 20 ans, je dise complètement autre chose, même que dans 2 mois, là.
C'est sûr.
Tu sais, moi, je suis rentré au conservatoire avec quelque chose de très précis. Dans le sens que je vais faire les choses à cette façon-là. Tac, 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 tac. Puis quand je me surprépare, je fais rien de ce que j'ai surpréparé souvent. Parce que dans l'action, dans le momentum de la répétition, c'est là que tout se passe. Fait que souvent, c'est d'abord avoir pensé 1000 choses sur le coup. Puis même, il y a des flashs, des superbes flashs qui arrivent seulement en répétition. Fait que pour moi, la préparation, c'est de base. Ça va être beaucoup dans le rapport avec l'interprète que tout va se passer, que les idées vont jaillir. J'essaie de le plus possible d'éliminer le travail de table.
Mm-hmm.
Puis autant je fais ça maintenant, ça se peut que dans 2 mois, je fasse autre chose. En ce moment, j'aime beaucoup l'enlever pour être plus rapidement dans l'action, que les intentions s'inscrivent dans l'action eux-mêmes. J'adore le rythme, j'adore l'humour. Fait que c'est sûr, je touche beaucoup la comédie. Mais il y a beaucoup de choses pour moi qui doivent partir de l'interprète. Je suis pas là pour te dire ce que je veux. Je suis là pour que ensemble on sache trouver quelqu'un. Tu sais, je suis pas j'ai pas une idée en tête. Ouais, ok, tu vas faire ça. Pas du tout. Souvent, première lecture, ok, on voit comment tu... Qu'est-ce que ça donne? T'sais, moi, comment je le vois, brièvement, première lecture, on a une idée, puis après, on le construit. On le construit, on le construit, on le construit, puis c'est beaucoup la salle de répétition qui révèle des choses au fur et à mesure. Puis c'est là que c'est intéressant. Dans mon style, tu sais, moi, je suis... Ok. À force d'étudier en théâtre, d'en voir mm-hmm. beaucoup, d'être dans une salle de classe longtemps aussi, je me fatigue beaucoup plus rapidement dans la vie. Je m'ennuie si les choses durent trop longtemps ou si... Fait que des fois, au théâtre, ça peut être difficile pour moi de suivre. Dépendamment du spectacle, tout ça. Puis moi, je repense toujours à mon père, qui, je me rappelle, dormait quand j'étais jeune. Tu sais, je le comprends. Des fois, un show des adolescents, des fois, c'est pas toujours le plus stimulant. Puis tu sais, c'est un homme qui travaillait fort dans le jour, fait qu'ils ont encore été épuisés. Puis là, il s'assoyait dans un fauteuil semi-confortable, dans le noir, à regarder des jeunes dire « Moi, je suis Molière! » Puis ça, c'était plus difficile. Je me rends qu'il s'endormait. Fait que je cherche absolument à être très dans... avoir une dynamique de l'attention très précise dans ce que je propose sur scène. Fait que si l'attention est pas là, c'est ça qui est le fun avec la comédie, c'est que le rire permet déjà, dès le départ, d'avoir une dynamique de l'attention hyperactive. On peut pas... C'est une réaction spontanée du public qui fait en sorte qu'il se raccroche directement. C'est pour ça que j'adore ça. Après ça, c'est l'œil, le mouvement. Comment tu accentues tout ça? Je dis le mouvement, mais je suis pas en train de faire « Ah, tu vas me faire trois roues latérales d'un côté, puis ça va être... » Non, je reste très réaliste dans ma direction, pour le moment. Mais c'est ça. Je dirais, le rythme, je peux pas avoir un seul temps mort, une suspension trop longue. Mm-hmm. Si j'ai une suspension qui dure plus que 2 minutes, pour moi, c'est trop long, c'est trop long.
C'est le fun du spectacle.
Il faut vraiment que la tension soit tellement tendue pour que je puisse supporter... Au moment où est-ce que tout se passe dans les mots et dans le regard. Sinon, même moi, je trouve ça, tu sais, je trouverais ça difficile. Il y a des super metteurs en scène qui font du théâtre incroyable, où est-ce qu'il y a un public qui veut ça, il leur donne, tant mieux. Moi, je pensais à... J'étais vraiment égoïste, je pensais à mon père puis moi. Puis je vais créer du théâtre qui va être pour ce monde-là. Qui ont besoin de... Tu sais, c'est la même dynamique qu'on va avoir en humour, par exemple, dans un show d'humour. Un bon humoriste qui va puncher, que le texte réfléchit comme ça, tu vas sortir de là, tu vas pas t'être ennuyé une seule seconde parce que t'es tenu en haleine du bout à la fin. La différence, c'est que là, je te raconte une fiction. Je te fais pas un monologue direct, j'ai pas d'interaction avec toi.
Ouais.
Mais la dynamique qu'on a dans un show d'humour qui fait en sorte que c'était bon, tout se passe. Tu t'enjoy ta soirée, tu ris, t'es comme « Ah, je vais venir leur voir! » Ben, c'est ce que j'essaie d'avoir, moi, dans ce que je fais. Que du début à la fin, on ait ce rythme-là. Puis que si jamais on tombe dans un moment plus trash, plus triste, qu'il soit... Là, c'est le défi avec le rire, c'est qu'un moment, on rit trop, la tristesse est plus difficile à atteindre, tu sais. Mais c'est une jonglerie. À partir de là, c'est une jonglerie, mais je suis pas contre ces beaux moments-là au théâtre qu'on a de très grandes sensibilités, dont le rire peut nuire. Mais avec, je pense qu'en jonglant correctement, on peut aller atteindre des certains paliers aussi qui sont plus difficiles. Des sujets qui sont plus difficiles. T'sais, le rire, c'est une porte de l'acceptation.
Ouais.
Fait que. J'estime, pour l'instant, je suis pas un auteur engagé du tout. Moi, j'écris pour qu'on se rassemble, pour qu'on ait du fun, qu'on ait une soirée, une expérience commune. Mais je dis, tu sais, je pense, j'ai un de mes textes qu'on va dans quelque chose de plus trash, de plus gore, mais je pense qu'on réussit à aller là parce que, avant ça, on a ri. Puis vu qu'on a ri beaucoup, ça passe beaucoup mieux.
Ouais.
Mm-hmm. Ben, un peu comme les deux dernières scènes, enfin, pièces de théâtre, un peu comme les Glaces ou L'Éveil du printemps, où c'est quand même des sujets qui... quelquefois peuvent être dit un peu tabou, mais qu'il y a quand même eu de l'humour.
Oui, ça fait en sorte qu'on va aborder finalement dans L'Éveil du printemps le suicide,
mm-hmm. ouais.
et qu'on rit tout le long du show.
Ouais. Oui,
c'est ça. Fait que ça nous permet, oui, d'aborder ces sujets-là avec une autre énergie complètement. Puis c'est pas juste le suicide, il y a eu l'agression sexuelle de l'ours,
tout ça.
C'est des
de
sujets très rough aussi, des fois, oui. Mais ça passe, tu sais. On le ressent quand même. Mm-hmm. C'est ce qui était le fun, c'est qu'il y a eu des petits trucs de oh! Ouais. C'est quand il y a eu la scène. Là, faut pas que je révèle le punch. Quand même, c'est pas fini ce show-là.
Il y a aucun punch. J'aurais toujours prévu.
Mais en même temps, j'imagine que cet épisode-là va te sortir après.
Sûrement.
Après l'éveil. Fait qu'on est bon. Fait que si vous n'avez pas vu ça, en même temps, l'éveil est joué à Montréal l'an prochain. Mais ça, c'est juste pour dire qu'il y a ces moments-là où est-ce que quand ça sort, t'as quand même t'as un react.
Ouais.
Je dis pas que l'effet est aussi réussi que si c'était, tu sais, sur la tension, sur la dureté du drame, si c'était tenu depuis le début, cette tension-là. Ouais. Vu qu'on a beaucoup d'humour, ça atténue énormément. Le drame lui-même, mais ça permet de le faire mieux passer aussi.
Mais c'est ça, mais c'est aussi que ça attire plus l'attention des spectateurs. Quelqu'un qui rit va être plus attentionné vers un spectacle que quelqu'un genre une tension non-stop. Il y en a qui vont vouloir arrêter de regarder pendant un moment.
Oui.
Alors que quand tu ris, tu ris, tu ris, puis d'un coup, genre, on te balance un truc trash dans la face et t'es genre puis tu ris encore de ton ancienne blague. Gang. Mais c'est ça, donc t'as juste honte de rire parce que ce qui vient de se passer là.
Oh, le moment avec le juge.
Oh!
Désolé.
Surtout que ce comédien, il jouait vraiment juste le juge hein, dans la pièce.
Je pense qu'il faisait également le bûcheron à l'arrière en
sautant. Ouais, mais il n'avait pas d'autre texte. Il faisait vraiment juste le juge.
C'était juste ça, ouais.
Je sais pas combien il était payé pour être aussi peu présent à écrire.
Il a fait plusieurs personnages secondaires, mais après il a fait.
Mais il l'a pas fait. Il a fait juste le juge comme dialogue. Non, il était juste présent physiquement sur scène.
Il a fait un personnage secondaire pour le juge, puis après il a plus été figurant.
Ouais.
Mais ouais, mais quand même.
C'est quand même quelque chose, ce personnage de juge dans l'extérieur.
Oui!
Spoiler!
Puis j'étais genre, oh my god, ça se passe bien moi, pour une fois, et nanani, nanana. Puis non, ça te casse ça dans les jambes.
C'est
genre,
c'est ça, c'est de l'espoir. Ah non.
Je parlais de rythme tantôt, là. Moi, c'est une chose, c'est pour ça que j'aime généralement, parce que j'ai pas tout vu ce que Olivier a fait à Liviarto, mais dans ce que j'ai vu, ce que j'aime, moi, c'est souvent la dynamique, le côté physique de sa mise en scène. C'est la première fois que j'ai vu quelque chose qu'il a fait, c'était la leçon qui est montée avec les finissants du conservatoire.
Okay.
Et c'est un show que je vais me rappeler, il était tellement dans l'action, alors qu'on parle de Dionysco, il y avait de la choré, du rap, tu sais, il y avait cette folie-là. Qu'on retrouve aussi dans L'éveil du printemps avec. Tu sais, ça, je vois aucun punch, là, c'est dans le thriller. Les chorégraphies de cordes à danser, de pente, de bureau aussi, qui était pour moi clairement une référence, qui est grandi avec la leçon là. Aussi. Là. Oui, c'est ce côté-là. C'est, quand je parle de dynamique de la tension, il y a ça aussi qui embarque lui, il réussit très bien avec ce rapport au mouvement-là aussi, qui nous garde captifs. C'est très dynamique.
Ben oui.
Ça nous garde éveillés. Ça, c'est pour ça que l'éveil, c'est le fun. Au début, ça attaque en force. T'as des punches, de la chorégraphie. Moi, je capotais.
Ouais, l'éveil du printemps nous garde éveillés.
Oui.
Baloum.
Ah! Humour quand tu nous tiens.
Wow.
mais ouais, sérieux, avec le moment des bureaux, c'est insane.
Ouais.
Ça faisait très.
Mais imagine à. Parce qu'il y avait. Tu sais, Olivier avait déjà essayé ça avec la leçon, le show des finissants, parce que c'était la leçon. Et il était 12 à faire des chorégraphies comme ça en bac. Puis il était bon en plus.
Okay.
Il était bon, les étudiants, là. Ah! J'aurais aimé ça leur voir, ce show-là.
Faut que tu me demandes s'il a peut-être enregistré le show.
Je pense que le conservatoire fait une filme tous les shows. C'est pas une captation officielle, mais filme quand même.
Ouais.
Yeah.
Mais c'était... il y avait une marionnette. La leçon, c'était que t'avais des immenses mains aussi marionnettes manipulables qui bougeaient les doigts. Les scénos, ils avaient fait un job de fou aussi, là. Non. Est-ce qu'on comprend que j'ai vraiment aimé ce show-là?
Ah, j'avais un doute.
Non, du tout.
Je me suis dit, ah, il a dû s'ennuyer un peu, ça a dépassé le 2 heures.
Ouais, mais ça... S'il vous plaît, si vous faites des spectacles de plus de 2 heures, mettez une entr'acte. Merci.
Ouais, c'est sûr que...
Les 2h15 de Robert Lepage, j'avais mal aux fesses à la fin.
Mm-hmm. Ben, tu vois, ça, moi, ça allait bien passer quand même, celui-là.
Mais c'est le confort.
Moi, je ne l'ai pas vu.
OK. Ben, quand je parle de scénographie incroyable, hein, ça en fait partie. Moi, Quills, c'était une scénographie que je n'ai pas compris comment elle fonctionnait, tu sais.
T'as pas compris?
Ben, je l'ai compris à la fin.
OK.
Mais sur le coup, je suis comme, hein? Puis ça me surprenait. J'adore me faire surprendre par des moyens techniques. Puis sur le coup, je suis comme... Puis là, je suis en train de comprendre, mais il y a autre chose qui se passe. Fait que je suis obligé d'abandonner mon questionnement sur ce qui se passait pour continuer l'histoire. Donc oui, ça s'est relativement bien passé à ce niveau-là, mais c'est... Je pense aussi que c'est ma consommation abusive de contenu web qui fait en sorte que mon attention est aussi plus difficile. Je peux pas juste lever le doigt sur mon écran puis passer à une autre scène.
Ça serait tellement fou. Mais tu fais ça, puis ça change de pièce de théâtre.
Oui. Mais j'écoute, souvent, j'écoute mes séries en fast forward.
C'est ça, tu m'en
Moi, je fais ça tout le temps.
Moi, j'ai mon petite touche, là, puis je suis comme bon, j'écoute ma série. Chlac, on vient de passer 30 secondes, on continue.
Non, moi, je le mets
en voir ça en 10 minutes, un épisode de 40 minutes. Là.
Je mets ça en vitesse x2, moi.
C'est ça, je commence à regarder des youtubeurs, mais en x2. Avant, je les mettais en x normal, mais maintenant, je les mets en x2.
C'est-à-dire que moi, je me trouvais dangereux en faisant juste avancer, mais en fast forward.
Ah non, bah moi, ça dépend. Non, okay, ça dépend qui.
Fast forward, du vrai x2.
Je fais du x2 et du
fast forward. Ça dépend qui, en fait. Ça dépend ce que la vidéo. J'attends la vidéo de moi. Si elle est censée m'apprendre à quelque chose, c'est x2.
Ah, c'est terrible. Puis après ça, moi, souvent. Là, en ce moment, je suis chanceux, j'ai accès souvent à des générales, tout ça, j'y vais en m'assurant d'avoir de la place autour de moi. Parce que, à cause de, déjà que les sièges sont plus petits pour moi, ça veut dire aussi que mes épaules, mon corps, mon torse vont prendre l'espace sur mes voisins. Je vais pas imposer ça à personne non plus. Mm-hmm. Puis, fait que souvent, c'est pour ça que c'est le fun, j'adore les générales, je me mets dans mon coin, je suis bien. Faut être confortable au théâtre, pas pour s'endormir, mais assez pour être à l'aise.
Ouais. Quand tu changes de place non-stop, moi, là, c'est pas beaucoup. Bon, là.
Mm-hmm. Mais c'est ça, moi, je bouge beaucoup, mais je sais aussi que je suis addict à mon cellulaire.
Moi, je l'éteins tout le temps.
J'ai passé un moment donné à la job, un moment non-stop, où je faisais que travailler. J'ai ressenti la dépendance au cellulaire. Je me sentais pas confortable. Après une heure et demie sans l'avoir, je me sentais pas confortable. Mais j'ai quand même passé genre mes 6 heures, 7 heures et demie de travail sans l'utiliser. Mais je me sentais pas confortable. À chaque fois, je voulais juste checker. Genre l'heure, par exemple. Mais je m'en foutais de l'heure. J'ai mis une montre. Mais je voulais juste genre checker si j'avais des notifications et tout. Ouais. C'était insane.
Mais moi, j'ai vécu un flop de cellulaire. Okay. Moi, j'étais comme, ok. Là, j'étais écœuré, je prends mon cellulaire dans le bus juste parce que je suis mal à l'aise de regarder les gens. Puis j'ai un ami qui, lui, a transité vers le flip-flop. C'est les vieux téléphones.
Oui, le flip-flop.
Puis il m'a influencé à me dire, ok, je quitte mon iPhone, je m'achète un flip-flop, je suis là-dessus. Puis là, je dis, ouais, ça va être fini, j'aurai plus toutes les publicités, je vais être à l'abri de cette culture de... Parce que j'étais accro.
Ouais. Comme tout le monde, en fait.
Fait que là, je me suis acheté un flip-flop. Puis, ça veut dire que maintenant, j'ai deux cellulaires sur moi constamment, là. j'ai toujours mon iPhone, je suis toujours, tu sais, dès que j'ai du Wi-Fi, je suis sur...
mais t'as pas de réseau sur ton iPhone?
Non, j'ai pas de réseau sur mon iPhone, mais il y a du Wi-Fi partout.
Ouais.
À quel point, en ce moment, oui, je dois traîner un autre bidule pour ma ligne téléphonique, mais à quel point je peux m'en sortir facilement avec juste du Wi-Fi? Alors qu'on paye des forfaits, des fois, avec des données faramineuses.
Exact.
Moi, je suis avec mes parents.
On est hors sujet, mais on parle quand même de sujet.
Mais c'est ça, il y a quand
c'est
24
piastres par mois que je paye en ce moment pour mon cellulaire, alors qu'avant, je payais 70 piastres. Est-ce que vous êtes déjà allé au théâtre ensemble à Québec?
Non.
Ma mère aime bien le théâtre, mais on n'y va jamais ensemble. Mais parlons du Carrefour, des fois, on a des pièces françaises qui viennent. On avait, je me rappelle plus du titre, mais on avait une...
Une comédie française?
Non, c'est pas une comédie française. Quand même pas. En même temps, moi-même, j'irais peut-être même pas voir une comédie française. Tellement que ça doit être plus qu'il y aura plus que 2 heures, puis ça doit être sans entracte.
Ah non, il y a des entractes. En France, on a quand même beaucoup.
Ah ouais? Ah, c'est intéressant. Ouais. Dis-moi en plus.
C'est en fait, une entracte, c'est
pour
une
les,
pause.
Même pour les concertos de musique classique et tout, on a souvent des entractes et tout.
Parce que les gens fument beaucoup la cigarette en France.
Oui, ça c'est vrai.
Il ne faut pas qu'ils nous le disent, fumer dessus, mais les autres s'en foutent.
C'est surtout pour les acteurs et les musiciens.
Ah oui, bien sûr.
Voyons.
Pour que eux, ils fument.
C'est ça, une petite pause.
Mais non, moi, ma mère, je l'ai toujours traînée au théâtre. La seule chose que j'ai pas réussi, c'est l'opéra. J'ai été voir Émile Néligan avec Marc Hervieux qui chantait.
Oui.
Poussait la sonate.
J'ai un camarade qui jouait dans Néligan. Jérémy L'Espérance. Il venait du séminaire de Sherbrooke aussi.
J'avoue que moi, il y avait juste Marc Hervieux que je connaissais dans la pièce. Parce que c'était dans le temps où j'étais à Drummond. C'était il y a un an et demi.
Ouais. Ça, c'est agréable de vraiment monter ta voix.
c'est ça.
Check à chaque fois.
La seule chose que ma mère a refusé de venir avec moi, c'était une pièce de Michel Tremblay puis de l'opéra.
Ah.
Donc c'était mon père qui était venu.
Non.
Jamais je suis loin d'apporter, d'amener mes parents à voir de l'opéra, là. C'est sûr et certain que ça.
Mais c'est parce que c'était dans
si ma vie. Mis à part si c'est moi qui le monte, là, il n'y a aucune chance. Je pense que. Pas qu'ils ne veulent pas, mais je pense qu'en même temps, je ne leur ferais pas faire subir ça. C'est pas, ils n'ont pas les codes pour comprendre l'opéra. Ça n'a pas partie c'est même moi là, l'opéra c'est hyper difficile pour moi parce que j'ai pas les codes pour comprendre l'opéra. J'irais pas imposer ça à mes parents.
Ouais, mais Nelly Yor, c'était vraiment moitié-moitié, là, me semble.
Je l'ai pas vu, par contre. Tu sais, je veux dire, en opéra, je suis néophyte, mais genre plus que néophyte, là. Je suis...
Honnêtement, c'est la seule que j'ai écoutée, mais c'est parce que ça faisait partie de l'abonnement qu'il y avait au théâtre à Drummond. Puis, j'avais des billets, vu que j'avais l'abonnement.
Donc, l'opéra, c'est cher. Caisse revient relativement cher. Le théâtre est beaucoup plus accessible, quand même, malgré qu'il n'est pas donné.
Ouais.
Ça, mais je trouve ça quand même dommage par rapport au prix, par rapport à tout ça, parce que surtout quand t'es étudiant et que t'as pas beaucoup d'argent, parce que tu payes tes études, tu payes ton appart.
Alors que c'est là qu'on est souvent le plus curieux
de découvrir des choses. C'est là où t'es le plus ouvert à toutes les choses. Ouais. Je trouve ça quand même triste parce que t'as envie d'aller voir des trucs, mais quelquefois tu t'en empêches parce que c'est cher.
Mais tu sais, le théâtre reste un dispendieux.
Oui. Ouais.
Pour moi, les billets les plus abordables, c'est les gros becs et c'est le premier acte qui les offre. Puis c'est vraiment des prix offerts à tout le monde. Tu sais, il y a une égalité de prix pour tout le monde, puis je trouve ça génial. Tu sais, des billets à 55$, même si t'es étudiant à 42$.
À part si ça dure 4 heures, moi j'accepte.
Oui, j'admets, tu sais, il y a un investissement d'argent.
C'est ça, ça fait que 10$ de l'heure, ça va.
Non, mais tu sais, il y a des shows qui vont durer une heure qui vont valoir 100$, tu sais.
Mais c'est ça, c'est fou, je comprends pas ça.
Mais c'est plus une question d'argent aussi qui est difficile à avoir des fois pour les théâtres, les subventions, tout ça.
Mais c'est assez fou quand même.
Mais ça reste difficile pour... considérer, mettons, je vais avoir un nouveau public, convaincre les gens dans leur budget de dépenser le 55$ pour venir au théâtre. Là, on va me dire, ouais, mais l'abonnement, c'est moins cher. Moi, avant de les abonner, il faut qu'ils viennent au théâtre pour ton show.
Ouais.
Convaincre les gens, justement, de dépenser ce montant-là. Là, après ça, est-ce que qui tu vises comme public, est-ce que tu veux parler à du monde qui ont de l'argent? C'est ça le but, pas nécessairement. Tu veux parler à tout le monde au théâtre.
Ouais, c'est ça.
Fait que tu veux aller à chercher du monde, des fois, qui sont dans des milieux avec des classes sociales plus basses un peu, moyenne, tu sais, des gens qui vont pas, moi, c'est d'où est-ce que je viens un peu plus, c'est du monde qui vont pas au théâtre. En même temps, on n'est pas chanceux, il y en a pas.
Mais c'est ça.
En petite campagne. Il y en a à Québec du monde qui ont moins d'argent, puis où est-ce que le coût de la vie est plus élevé aussi ici, là.
Oui.
Fait faut que je le convainque de venir dépenser de l'argent dans son budget, alors que ces personnes-là peut-être des enfants, des dettes à rembourser, un loyer, il faut qu'il est plus difficile à payer ce mois-ci. Clairement que cette personne-là, va pas choisir d'aller au théâtre.
Elle va
s'abonner à Netflix.
Oui,
parce qu'elle va avoir 20 000 films pour 15$. C'est genre 15-17$.
Ouais,
piastres,
c'est ça a monté.
Par mois.
Par mois. Ouais. Alors, même pas la moitié d'un prix d'un billet de théâtre est taxé à toute cette culture-là. Ça. Clairement, c'est un choix de la facilité, mais c'est le choix aussi. Pour moi, il doit avoir des meilleures options d'un théâtre, clairement, pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir y accéder. Il y en a. Tu sais, il y a la ville, le Québec, offre à certains endroits. Tu sais, je sais qu'on a ça, je pense qu'ils l'ont aussi au Grand Théâtre, mais on l'a au Gros Bec, des billets que la ville donne.
Oui, il y en a. Mais je sais pas si c'est pour le théâtre. Je crois qu'il y en a pour l'OSQ de ça.
Mais ça, je trouve ça génial. Ouais. Mais il en faut plus. On va parler tu sais, il y a plein de cas typiques de dette étudiante, mais le poids que ça peut avoir. Je me rappelle, j'étais adolescent, j'avais des profs qui avait peut-être, tu sais, qui ça faisait longtemps qu'enseignait et qui venait de terminer ou qui allait terminer, il y a, voyons, j'aurais plus de son prénom, Danny, qui est un acteur, auteur à Montréal, Boudreau, c'est ça, Danny Boudreau,
ouais, je sais pas,
qu'il allait pour le jamais lu avant que ça plante à cause de la pandémie, il a écrit un texte sur sa dette étudiante qui venait de finir de rembourser.
Avec quel âge?
Je sais pas, il y a la jeune quand même, mais je pense qu'il avait proche de 40 ans ou un truc comme ça, tu sais.
Donc c'est au moins 20 ans, genre.
Oui, puis tu sais, des études en théâtre, tu sais, je cacherai pas, là, j'ai eu des prêts et bourses, j'ai été dans plein d'écoles, je porte mon lot de dette étudiante. Puis à moins que j'aille, oh my god, j'ai des beaux contrats qui payent un max, c'est pas quelque chose qui va se rembourser du jour au lendemain,
ça,
là. C'est un immense poids quand même, ça.
Mais c'est ça, c'est en plus, c'est, tu commences ta vie d'une certaine manière, parce qu'après tes études, c'est là où tu peux te permettre de faire un peu plus de choses, on va dire. Parce que tout d'un coup, t'as moins de trucs à payer, mais en fait, non, du tout. T'as un pied complètement, genre, coupé, on va dire.
Puis t'as des écoles de théâtre, c'est beaucoup au Conservatoire de Québec, qui demandent à ce que tu ne travailles pas.
Ouais, c'est fou.
Tu sais, au Conseil de Québec, on demande de pas faire de contrat, mettons, dans ta discipline, quand que l'année scolaire est en cours.
Ouais.
Fine. Mais avoir un emploi, on s'entend que c'est l'arrêté de la vie, mais il y a des écoles qui demandent est-ce que tu n'as pas d'emploi. Moi, je te rappelle, je suis à Lyon-Algiraud. On rentre et ils disent c'est peut-être mieux que vous preniez une marge de crédit ou un prêt étudiant pour faire des études. Puis je suis comme d'abord, oui, je vais le prendre. Si je suis capable, je peux pas.
J'en ai déjà quatre.
Parce que je suis déjà. Ça va, c'est ça. Mais je suis comme dans un an. J'ai une chance minimum, là, une chance sur deux, peut-être moins que ça, là, de rester dans ton école et tu me dis qu'il faut que je m'endette pendant un an peut-être de 10 000, 15 000 piastres alors que je ne suis même pas sûr d'avoir un maudit diplôme à la fin. Ça, c'est difficile. T'es comme
c'est ça.
Non, je l'ai accepté, moi.
Lionel Gros, c'est à Montréal, ça?
C'est vrai, ça arrive nord, un peu plus ça arrive dans les Laurentides à côté de Montréal.
Donc, en fait, il y a juste les gens qui habitent proches qui n'auront pas de dettes.
Non, mais encore là, c'est que tu travailles pas, tu payes ton loyer. T'as des dépenses
à payer. Non, mais si t'habites avec tes parents...
Mais tu sais, finalement, tout le monde travaillait quand même, puis ils disaient rien, là, tu sais, c'est la réalité. Mais c'est la recommandation qu'ils faisaient. c'est... Il y a pas grand programme, je pense qu'ils disent « Ne travaille pas! » Je me rappelle, à Saint-Hyacinthe, moi, je travaillais de nuit dans un couche-tard la fin de semaine. Il y avait pas d'emploi, j'avais un CV quasiment... Tu sais, j'avais un bon CV, j'avais quand même fait des belles jobs, mais je trouvais rien du tout. Ouais. Je me suis retrouvé à faire le vendredi nuit et samedi nuit au couche-tard à faire mes nuits là, puis à recommencer l'école de jour le lundi dans un contexte assez particulier. C'était assez spécial, merci, à ne pas recommencer, mais j'avais pu accéder des prêts et bourses. Mm-hmm. Le marché de l'emploi était difficile, il fallait que je me trouve de quoi, puis ça a été ça, tu sais. Tu sais, je dis ça, ben, je connais du monde qui ont fait d'autres jobs qui sont plus chiants à faire pendant qu'ils sont dans leur parcours.
Ouais.
Mais, tu sais, est-ce que je regrette ces dépenses-là? Un peu.
Un petit peu.
Mais, tu sais, faut pas oublier non plus que ce... Moi, je suis très content de mon parcours. Même si c'est plein d'échecs, de défaites, de non-réussites. Je suis où je suis en ce moment, puis je suis très content de l'être.
Mm-hmm.
Puis si je m'étais pas forcé à vouloir comprendre comment fonctionne un acteur, je me serais jamais retrouvé à être passionné de direction d'acteur. Impossible.
Mais c'est ça.
Fait que je suis chanceux, ça m'a servi. Il y a plein de gens qui ça leur servent pas, ça fait des dépressions, puis c'est rough, là, tu sais. Mais moi, ça m'a servi, puis je suis très heureux de ces moments-là. Puis je dépensais des fois de l'argent, de prêts et bourses. J'ai vécu... J'étais pas... Oui, des fois, j'étais dans la marde, mais des fois, j'étais bien heureux aussi, là.
Mm-hmm.
Des fois, j'ai eu des belles soirées qui ont été plus dispendieuses, parce que c'est un peu ça aussi de comment tu gères tes pulsions aussi. L'argent est proche de tes pulsions aussi. Tu dépenses plus, tu vas peut-être pas bien, tu vas dépenser plus.
Mm-hmm.
Tu vas bien, mais tu vas peut-être dépenser plus aussi, tu sais.
Ben, c'est ça.
Mais des fois, t'es comme, hey, je suis bien correct, mon horaire est rempli, j'ai pas besoin, je prends le minimum, ça va. Ça, c'est l'avantage ici en ce moment. Moi, je suis très occupé. Je travaille en plus.
Ouais.
Fait que généralement, je dépense pas tant que ça, là, au final. Mais là, que tu t'en libres, c'est facile de... Quand je travaillais pas, je dépensais plus que quand je travaillais,
ouais.
Au final. Parce que tu sors, tu vois des gens, tu profites.
Mais
c'est un mode de vie étudiant, c'est pas 40 heures semaine. C'est 50 heures, 60 heures, plus. 70 heures. C'est le fait qu'il passe bientôt minuit et qu'on est encore à l'université pour que on enregistre un podcast pour le festival du théâtre. Ouais. Quelle heure, là?
Il est minuit 13.
Minuit 13, tu sais. C'est cette application-là aussi. Oui, c'est le fun. Oui, on tripe souvent à faire ce qu'on fait.
Mm-hmm.
Mais l'implication, la charge que c'est plus qu'une semaine de 40 heures.
Les profs s'en rendent pas compte.
Les profs s'en rendent pas compte.
Ah, mais clairement, mais c'est normal. Mais eux autres aussi, c'est, généralement, s'ils sont des professionnels, eux aussi sont habitués à ça. Les autres aussi sont habitués à faire leur tâche d'enseignement, puis appliquer leur conservatoire, la chance que j'ai. On n'est pas d'étudiants.
C'est ça.
C'est facile entre les profs de communiquer. C'est facile de dire à un prof. Mm-hmm. « Hey, ces deux semaines-là, j'ai ces deux travaux-là à faire. » Ou comme là, moi, j'ai un show qui s'en vient en mars. J'ai dit, si j'ai un travail à faire, fais-moi le faire en février ou en avril.
Mm-hmm.
J'aurai pas le temps de mettre des heures sur autre chose que sur le show final, que sur lequel je travaille. Puis on est chanceux là-dessus. Là. Ouais. Ils sont hyper compréhensifs. Puis même qui sait, tu sais, c'est un support complet. Oui, je t'envoie ça, j'ai tous mes conseils sur certains travaux, comment on va attendre, on va s'en jaser après ton show pour dire, OK, ce projet-là, on le fait vraiment après. C'est le fun à voir. Mais oui, la charge reste quand même importante.
Ouais. Puis souvent aussi, t'as des devoirs à la maison aussi. Même toi, tu dois probablement...
J'aime ça considérer ça comme des devoirs.
Bah, pas vraiment des devoirs, mais genre tu
dois...
Des tâches. J'ai des comptes à rendre dans ce que je devais faire. Tu sais, quand j'écrivais avec Isabelle, il fallait que je ramène du stock. Il fallait que je ramène du nouveau stock.
Mm-hmm.
Puis pour moi, c'est important de progresser constamment. T'sais, dès que tu fais quelque chose, dès que tu es sur un projet, il ne peut pas stagner. S'il stagne, c'est pas qu'il ait besoin de stagner.
Ouais.
Mais tant que tu ne ressens pas qu'il y a le besoin de stagner, il peut pas l'être à cause que toi, tu suffis pas. Moi, c'est ma vision du travail. Même si j'ai pas d'idée, même si on va juste essayer de construire des choses à chaque fois. Puis des fois, c'est juste d'être dans l'état. Dès que tu te mets au travail, tu réussis à le faire aussi.
Mm-hmm.
Tu te mets dans l'état. Puis moi, je crois beaucoup au fait de... C'est... Je sais pas si vous connaissez Navo.
Navo, le légume?
Non, Navo, c'est, le grand, c'est le grand complice de Can que j'en dis. Can puis Navo ont fait la série Bref en France.
Oui.
Puis Navo est plus réel, écriture. Can est plus... en fait, touche un peu réel, mais c'est vraiment Navo qui s'en occupe plus, écriture au jeu.
Mm-hmm.
Puis là, Can est devenu humoriste. Puis Navo, ouais. Je pense que c'est la première partie, puis il aide à écrire. Mais Navo, dans une entrevue avec un podcast qui s'appelle Nouvelle École, parlait d'un concept qui est donner sa chance à la chance. Selon le principe que tu ne sais pas le moment où est-ce qu'il y a un élément, aussi banal qu'il puisse être, peut s'influencer le reste de ta carrière. Le moment de qui va faire en sorte que toi, tu te démarques, que toi, ce moment-là va faire t'apporter une autre job. Puis, il parlait d'un gars qui avait engagé que lui faisait du montage de vidéos de mariage. Puis, c'est en voyant ces montages de vidéos de mariage qu'ils l'ont engagé sur Bref. Fait que, pour moi, c'est important, dans peu importe ce que je fais, mes cours, ou même si c'est moins important, puis oui, des fois, c'est difficile, ouais. Des fois, l'intérêt n'est pas là. Je sais pas lequel de ces cours-là peut avoir une influence sur la suite. Des fois, je suis déjà surpris. Il y a un cours qui me surprend, c'est l'histoire du costume que j'ai. Que je suis très loin des choses que j'aime dans la vie, mais autant que c'est intéressant, pour moi, ça me stimule beaucoup de comprendre le rapport du costume par rapport à l'individu, par rapport à la conscience du jeu, de comprendre le mécanisme des costumes eux-mêmes, de l'époque surtout. C'est de comprendre comment un corps devait bouger. C'est comment diriger un acte. Il y a toute cette dimension-là qui vient en compte. Je dis pas que je suis un passionné d'histoire du costume. C'est pas ça. Mais il y a eu cet élément-là qui m'a intéressé beaucoup. C'est le même principe qu'à la base, moi, j'étais quelqu'un de sédentaire. Moi, j'étais. Tu sais, je suis assis, je travaille, that's it. Et j'adore à cette heure le mouvement après avoir eu des cours de mouvement dans lesquels je me suis épanoui. C'est des cours où est-ce que je me suis rendu compte que je pouvais plus exprimer avec mon corps qu'avec ma voix. Que. Je pouvais vivre des choses plus réelles aussi personnellement en travaillant sur mon corps. À Lionel Groulx, j'avais travaillé avec Joanne Benoît sur la méthode Alexander, des cours de méthode Alexander, et ça m'a ouvert mes canaux émotifs, là. Tu sais, on faisait juste des petits exercices, puis après le cours, j'avais envie de brailler ma vie. Tu sais, je suis comme, quel miracle le fait qu'on ait un corps humain qui peut être transporté autant de choses. Depuis ce temps-là, moi, tu sais, souvent... Puis l'avantage de mes cours, mettons, autant de ces cours-là, le cours de Fallencrest à Saint-Hyacinthe ou les cours de ballet, de danse à Lionel Groulx, je peux diriger un corps avec des mots.
Ouais.
C'est ça qui est le fun aussi. Puis de comprendre aussi qu'est-ce qui influence le jeu d'un acteur par rapport à sa disposition corporelle actuellement. Est-ce que ça influence vraiment aussi? Puis de comprendre les mécaniques des mouvements. Puis le fait que je me sois vraiment intéressé instinctivement à ces cours-là fait en sorte qu'aujourd'hui, ça influence ma pratique. Après ça, le rapport à l'autre, qu'est-ce que l'autre va voir de moi? Je sais pas. Mais en ce moment, j'aime à penser que si ça sent m'épuiser, ça me rend malade, tu sais, c'est ça aussi l'idée. Mais de me donner vraiment à chaque projet que je fais, à chaque chose que je fais, en me disant que au moins j'aurais pas le regret de me dire que j'ai raté ma chance.
Ouais.
Ça, c'est beau.
C'est ça. Mais
la c'est... gestion d'horaire.
Tu veux-tu voir mon horaire live?
Non, c'est pas de le voir l'horaire, c'est ouais. De gérer. De comprendre combien tu as besoin de temps pour faire ça, quel sacrifice tu es prêt à faire aussi pour tes objectifs.
Ouais.
Tu sais,
ouais, c'est ça, c'est...
j'admets, je veux faire du théâtre de ma vie. Même si on me dit non, je pense qu'ils n'ont pas compris. Je veux en faire. Peu importe. La branche va se décider avec le temps, mais c'est pas une école qui va me démoraliser. C'est pas deux écoles. C'est pas trop coupure. C'est. J'ai donné 10 ans de ma vie à ma formation en théâtre pour pouvoir faire, espérer pouvoir faire ce métier-là de ma vie.
Ouais.
C'est très peu de sacrifices que j'ai à faire quotidiennement, contrairement à ça, en me disant, pour réussir à faire tout ça, mais il faut être prêt à faire les sacrifices. Puis qu'ils sont notables, puis qu'ils sont pas le fun à faire. Je dis pas que c'est évident, puis c'est une charge mentale beaucoup, c'est beaucoup d'autodiscipline, de rigueur personnelle avec soi-même, c'est toi. Sur toi. C'est toi qui vas t'en vouloir à toi-même. C'est de gestion de colère envers toi-même parce que t'es comme « Ah, j'ai pas fait ça, je suis con. Pourquoi ça fait 3 jours que je fous rien alors que je me suis mis en tête de faire tant de choses? » Mais aussi de mettre un objectif à atteindre. Mais c'est de tenir solidement cet objectif-là en tête. C'est plus tu le fais, plus tu pratiques, plus ça devient une habitude aussi.
Ah, Louis.
Et là, tu sais, moi, je travaille en ce moment, par contre, sur le principe d'avoir une journée off dans ma semaine. C'est ça, c'est important. Et elle est intouchable. Intouchable. Moi, le mardi, c'est pour ça que demain, je ne fais pas. C'est ma journée intouchable.
Ah, ouais, je trouve.
Il n'y a pas le travail ni l'école qui peut venir jouer dans cette plate-bande-là.
Et c'est là où on découvre que nous, notre journée de congé, c'est là où on a juste des cours en ligne.
J'ai 3 cours placés dans ma session. Cette session-ci, vu que c'est mon projet final, le reste, c'est moi qui fais mon horaire.
Ouais.
Fait, ce qui fait en sorte que j'ai des journées à 14-15 heures, le jeudi, mercredi, vendredi. Ce qui fait en sorte que c'est des très grosses journées. Mais c'est le sacrifice à faire pour avoir ma journée off à cette heure.
Ouais.
Puis tu sais, je vais devoir des fois la perdre, ma journée off, pour pouvoir m'assurer d'avoir toutes mes choses à temps aussi.
Ouais.
C'est une autre réalité. Mais c'est pas évident d'avoir un horaire et être organisé. Puis être organisé, c'est pas, tu sais, c'est, je dis l'organisation, mais c'est la discipline,
mm-hmm.
c'est la rigueur. C'est capable de te lever à 8h et à 8h05, t'es devant ton laptop. Moi, mon sacrifice que je fais beaucoup, c'est le Red Bull aussi, là. On se mentira pas, là. Je me dope à la performance. Oh, mais...
Tu te donnes des ailes, tu te donnes des ailes.
Je me lève, je prends le déjeuner, j'ouvre le Red Bull, bam, en 10 minutes, je suis devant mon ordi puis j'écris un texte.
Mais c'est ça.
Tu sais, c'est
moi, le non, matin, je snooze.
Non, pas. Tu sais, c'est des règles de 5 secondes. OK. Tu te réveilles, snooze, non. Là, tu te mets 5, souvent, c'est le 30 secondes que j'aime mieux aussi. Le 30 secondes qui te laisse assez de temps pour tricher, pour te dire que tu flanches. Ton réveil sonne, tu snooze, t'as 30 secondes.
Ton réveil snooze aux 30 secondes?
Non, si toi, tu te réveilles...
OK, oui, il snooze aux 10 minutes.
T'es obligé de te lever. Ou... J'ai 30 secondes pour essayer de coucher. Après ça, je me force à me lever. C'est des petites règles comme ça, des fois, qui... À un moment donné, ça devient une habitude. Tu y penses même plus, tu le fais. Puis à un moment donné, tu le perds. Tu le refais. Mais c'est pas...
Je vais essayer ça.
Je comprends quand tu dis, regarde mon horaire. Clairement, qui est chargé ton horaire. Est-ce qu'il est optimal? Là, la question.
Ben, c'est quand t'as des cours obligatoires et la job, t'as pas le choix de grand chose.
Oui, oui. Après, c'est de voir combien d'heures tu donnes à la job, combien de temps tu veux investir au travail. Tu sais, moi, je me fixe des limites énormes.
Oui, mais les limites, c'est.
J'ai la chance avec l'emploi qui de pouvoir agencer mes horaires en fonction de ma gestion d'horaire personnel.
Oui.
Tu sais, on m'impose pas, travaille le jeudi soir. Non. Je dis pas là, c'est correct pour toi. Oui, parfait, super.
Oui.
Ça, je suis très chanceux pour ça. Mm-hmm. Je suis très reconnaissant aussi. Ça me permet d'avoir.
Tes horaires vraiment atypiques, là?
Oui. Mais c'est génial. Mais c'est ça, il faut trouver une façon. Puis si ton emploi ne permet pas d'optimiser ton travail personnel dans tout ça, peut-être que ce n'est pas le bon travail pour accompagner tes projets. C'est difficile à l'université. Moi, je ne serais pas capable d'être à votre place.
Ouais?
Ah non. Être sur des bancs, en même temps, ça fait quand même longtemps que je faisais études, mais j'ai plus la patience d'être sur des bancs d'école.
Mais ça dépend aussi
de la façon dont ils peuvent réussir à genre, capter ton attention.
Oui. Tu sais, je trouve que l'université, c'est très exigeant. J'ai l'impression que plus j'ai des quoi une session à l'université là, on s'entend là.
C'est vrai que t'as presque pas fait d'uni.
mais je trouvais pas ça optimal. Je trouvais pas que il y a tellement d'étudiants et étudiantes, il y a tellement de gestion d'organisation. Mm-hmm. C'est cool d'avoir un établissement d'enseignement supérieur, d'accord. Même divisé en pavillon, c'est trop difficile pour gérer tout le monde. C'est trop difficile pour avoir une réflexion du programme lui-même sur la charge que ça représente, pour avoir un suivi personnel avec les étudiants.
Mais c'est ça, parce que personne n'a le même objectif, là. Surtout dans des bacs, mettons, généraux, parce que nous, c'est quand même un bac général en théâtre. Il y en a qui vont faire de l'administration, puis qui gèrent des troupes. Il y en a d'autres qui veulent faire de la création, faire du jeu. Il y en a qui veulent faire mise en scène. D'autres qui font le scéno, écriture. Il n'y a personne qui va même en faire.
Je trouve ça difficile.
Puis
ça,
aussi, je trouve que c'est encore plus difficile parce qu'on est la génération Covid.
Mm-hmm.
On est la génération où on a eu nos cours de cégep en ligne.
À moins que ce soit du jour au lendemain, moi je n'arrive pas à comprendre qu'on va pas avoir des cours en ligne théoriques là.
Bah c'était difficile au début, mais après tu t'habitues. Mais à la fin, tu vois, t'as toujours ton téléphone à côté de toi et le prof il voit pas que tu vas être sur ton téléphone. Bah sauf les quelques fois où t'as l'impression que je suis morte.
Moi, tu me mettrais les cours en ligne en vitesse x2, j'aurais sûrement plus d'intention.
Tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai jamais essayé. En même temps, mes cours étant c'est vraiment. Ouais, tu sais, c'est présent, là.
Mais c'est ça.
Tu sais, j'ai dû à Lionel, quand ça tombait, j'étais à Lionel Gros à ce moment-là, on a dû faire nos scènes finales sur Zoom.
Ouf,
et j'avais pas l'ordinateur, moi. Fait que j'ai joué sur un cellulaire, mis sur un trépied de voiture, mis sur
un trépied de voiture,
ok. Bref, c'est un setup comme on pouvait, et je devais jouer avec une comédienne plus petite que mon pouce sur un écran et faire de la comédie classique.
Oh, ça doit être tellement...
C'était dégueulassement horrible à faire, là. J'ai détesté. Moi, j'ai perdu... Puis, tu sais, corporellement, ton rapport au jeu...
Ben, c'est ça.
Moi, ça m'a détruit. mon jeu, là, tout ce que j'avais pu apprendre, ça me l'a déconstruit d'un coup parce que je n'étais plus conscient de quoi que ce soit.
Mais c'est ça, tu n'as plus vu la conscience de l'espace.
Il y a, on dirait que je trahissais toute règle que je suivais.
Ouais.
Non, c'était pas le fun, pas en tout. Ils nous ont amenés là. Puis,
mais ils n'avaient pas le choix, là.
Ben, il y avait le choix.
Mais ils pouvaient faire ça en présence?
Non, ils auraient pu faire comme Saint-Hyacinthe, qui ont décidé de... on va arrêter ça là. Il n'y aura pas de coupure de scène à coupure plus tard, mais on vous encourage telle personne à rester, telle personne à partir. Mais c'est votre choix. Okay. Il n'y a pas de coupure officielle.
OK, c'était les scènes pour les coupures?
Oui.
Mais c'est les scènes finales.
OK!
Les scènes finales, c'était en mars.
Ah! Oh. Ok.
C'était fin mars COVID, c'était les 16.
Moi, j'étais avec deux colocs et deux bonjums qui, elles ont tous été dans la même situation que moi, avec Lionel Gros en théâtre. Fait que c'était ok. Puis on avait des horaires de répétition pour pas faire de bruit pendant que l'autre joue. Nos voisins étaient avisés en haut. Ouais, excuse-moi, on va faire du théâtre.
Par contre, tu vois, je connaissais une personne qui était allée à Saint-Hyacinthe qui s'est fait couper après un an. Elle a fait de l'impro en ligne.
Moi, j'en ai fait aussi. J'en ai fait ça, deux pratiques, puis on a fini à jouer au loup-garou en ligne.
Ouais. Non, mais ça demande beaucoup d'attention aussi d'être... Même entre amis, ça, on essaie de se voir entre amis.
Mais c'est ça, mais
j'étais content de les voir, mais j'haïssais ça.
Mais c'est ça, c'était vraiment genre... T'es là, mais t'es plus là, en fait. Donc c'est pour ça, si on a vraiment pris l'habitude...
Souvent, c'est que... C'était quand c'était du one-on-one.
Ouais.
Quand j'ai essayé de prendre des cours de russe durant la pandémie. Je travaillais avec une prof qui s'appelait Dasha, qui était en Russie. Puis c'était le fun. C'était interactif, il y avait quelque chose de dynamique. Juste avant la pandémie, quand j'avais Maxime Champagne, qui est auteur en dramatique, qui me coachait pour les Grégores, pour la suite. Puis on travaillait à distance. C'était génial en one-on-one. Ouais, ouais. Mais dès que c'est impersonnel, dès que... Tu sens que t'écoutes une vidéo qui est juste plate.
Ouais, c'est ça.
Impossible. J'ai eu la chance de pas avoir ça, de pas devoir vivre ça vraiment. Tu sais, j'en ai eu des fois quand un prof est malade, donc on fait ça. C'est difficile. On le fait pareil, hein. C'est rock'n'roll. Mais tout ça pour dire bravo, t'es très c'est pas évident.
Bah oui, on va parler de tes projets actuels et projets futurs. Mes projets futurs, on en a déjà parlé là. Mes projets de cette année finissant.
Mais tu sais, encore là, c'est très difficile d'en parler parce que c'est très rapide comme processus.
Ouais.
J'ai écrit un texte avec l'aide d'Isabelle dans les trois derniers mois.
Isabelle Hubert, qu'on a eu aussi dans le podcast.
De septembre à décembre. Ensuite, en ce moment, on commence les répétitions cette semaine. Les répétitions, on s'est déjà rencontrés, mais on commence les répétitions le 2 février. J'ai la tête dedans depuis le début, c'est très difficile d'avoir une distance. C'est vraiment dans ma face encore. Si je vais en parler, c'est pour ça que les termes sont pas encore tous définis dans ma tête de ce que je fais.
Ouais.
Mais c'est, en gros, quand tu es en mise en scène, tu as un projet final. Tu as plein de cours de direction d'acteurs, tout ça, qu'on t'engage des comédiens, mais tu n'as pas nécessairement de décor, de scénographie, de présentation publique. Mais tu as un événement qui est ton projet final, que tu écris généralement. Mais ils m'ont quand même laissé le choix, est-ce que tu veux l'écrire? Puis j'ai dit, ben oui, je veux l'écrire. Ça me tente.
Ok, tu aurais pu prendre un texte déjà écrit.
Limite, ouais.
Ok.
Ouais, mais la proposition, t'es comme, t'aimerais ça, c'est savoir si on est à l'aise d'écrire aussi. Parce que c'est quelque chose de dire, je suis à l'aise d'écrire et de monter mon spectacle. Fait que c'est un texte que j'ai écrit qui s'appelle Jacuzzi State, d'une durée d'environ une heure et quart.
Avec ou sans entracte?
Sans, pour la courte durée. Je dépasse pas l'1h30. Moi, ma règle, c'est si je dépasse 1h30 de show, il y a un entracte. Mais là, ça passe vite, puis tu sais, je vais chercher à rendre ça dynamique le plus possible. Jacuzzi State, c'est l'histoire de trois individus qui se ramassent à passer du temps dans un jacuzzi, dans un espace de parking derrière un building appartement. Et c'est une manifestation, en fait. Ah, c'est vraiment pas clair.
Une manifestation.
C'est Raphaël qui vient de se faire envoyer de pataugeuse magique. Et pour se venger, achète un jacuzzi, l'installe dans sa place de parking et manifeste pour faire de la pub à leurs compétiteurs. Se joint à elle David, qui s'est fait mettre dehors de son appartement par sa femme, et Audrey, qui est poursuivie par des humoristes connus pour les avoir bâchés sur Internet. Et ils se joignent à elle dans ce délire-là et la manifestation prend de l'ampleur, c'est mis sur les médias sociaux, les gens arrivent et ça devient donc la risée des chroniqueurs.
OK.
Et un chroniqueur a dit en gag qu'ils se partent un pays et ils vont faire rien de moins que de se partir un pays dans le jacuzzi.
Dans le jacuzzi.
C'est le pitch de base. Après ça, c'est on est en comédie absurde. On traverse des époques. Mais pas des époques. On reste dans la même époque, mais on traverse des régimes. Un peu aussi. Fait que c'est pour ça que, pour moi, j'essaie de faire de quoi qui a beaucoup d'images rapides.
Ouais.
Qu'on a un visuel qui bouge beaucoup.
Mm-hmm.
Qui, t'es 5 minutes-là, OK, on change complètement d'image dans ce moment, ton esprit. On va ailleurs. Je travaille sur une bande sonore qui nous fait voyager ou qui nous aide à accompagner ça.
Ouais.
Je travaille avec des super concepteurs-conceptrices. Églantine Mali, qui a terminé l'an passé, qui s'occupe de mes décors et costumes.
Okay.
J'ai Simon Rollin, qui a fini également l'an passé, qui fait mes éclairages. Comme interprète, j'ai Simon Lepage,
mm-hmm.
J'ai Lauriane Dumoulin et Sophie Bello. Je suis mentoré par Maryse Lapierre. J'ai une équipe. Direction de prod, Nicolas Cormier, qui est directeur de production du... J'ai une super équipe, puis il y a des petites participations, des petits caméos aussi de certains enseignants dans le de façon audio, puis certains étudiants. Bref, on travaille sur un ensemble, un projet assez d'ensemble. Ça, c'est le 20, 21, 22 mars prochain.
En même temps que le festival.
C'est un petit joke, c'est un public d'environ 30 personnes par représentation seulement. Fait que on va essayer de... Puis mm-hmm. ce qui est super... C'est qu'une adaptation web qui va être diffusée au même moment, le 21-22 mars. Qui
va être possible en rediffusion ou juste une fois?
Il va être disponible seulement durant une plage horaire ces soirs-là.
OK.
Puis c'est une adaptation web. Fait que c'est pas juste une captation générale que j'essaie de faire. C'est d'avoir des adresses caméra aussi.
Ouais.
Une adresse avec le public. Il y a un moment qui va être filmé avant.
Ouais.
Qui va, parce qu'il y a une partie que je vais garder pour le spectacle en salle,
ouais.
Et une partie que je vais garder pour le spectacle en ligne.
Ok, donc il faut regarder les deux pour le voir au complet.
Ah, ben c'est ça. C'est... Non, mais j'essaie juste de pouvoir aménager la dimension, puis il y a des raisons pourquoi. Bref,
okay.
À suivre. C'est pas mal ça qui m'attend pour le reste de l'année. Après ça, c'est la finalité,
mm-hmm.
Le lancement, le... Les vacances.
Ouais, les vacances pendant 4 mois, genre t'as tellement travaillé qu'après tu t'ennuies.
Non, ça va voir, ça c'est plus que j'ai eu la chance d'en passer de travailler avec un cirque.
Ouh.
Puis j'espère pouvoir retravailler avec eux cet été. On a fait un spectacle qui était vraiment le fun à faire. Fait que j'aimerais bien ça retravailler avec eux, puis à voir. Mm-hmm. Il y a cette spontanéité-là dans les projets qui peuvent arriver. Comme ça, c'est arrivé l'an passé. On sait pas ce qui nous attend. Ça se peut qu'il y a une belle opportunité qui arrive demain. Je ne sais pas. Ça se peut qu'il n'y a rien qu'avant 3, 6 mois, 8 ans. Who knows? Voilà.
Ah ouais, si, y a un truc que tu n'as pas dit, que tu aimerais dire, que tu trouverais ça, je veux dire captivant, mais...
Intéressant ou genre
c'est
peut-être...
C'est pas intéressant le mot que je cherche. Être... Impactant? Non. Je sais plus c'est quoi le mot que je cherche, honnêtement.
Impactful.
Je pense qu'il est trop tard pour trouver le mot. Mais quelque chose qu'on n'a pas dû, que tu voudrais dire... Que t'es genre, oh my god, c'est tellement genre quelque chose que je veux dire.
De l'effet pour quelqu'un, tu sais, genre.
L'effet pour quelqu'un.
Un petit tips, un petit truc qui peut donner de la motivation, peut-être.
Just do it.
Non, mais c'est pas avec des.
Gère tes emplois du temps.
Non. Ben, moi, je répéterai la phrase de Navo que j'adore. C'est donne, si tu veux quelque chose, si tu veux atteindre un objectif. Tu sais, je suis pas la personne qui a réussi dans la vie, mais. Je continue à avancer, puis tu sais, ça peut arrêter.
Ouais.
Je réussis encore à faire un pas devant l'autre, puis moi, ça importe. T'sais. Tant que tu peux faire un pas devant l'autre, continue.
Mm-hmm.
Mais surtout, donne ta chance à la chance. Ouh. Pour être certain de ne pas rien regretter.
Donne ta chance à la
chance. Donne sa chance à la chance.
Ouais.
L'occasion au hasard de pouvoir t'aider aussi.